Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre série de podcasts réalisée par R+, Corporate Payment Insider. Je suis Thibaut Barra et à l'invitation d'R+, je vais vous emmener à la rencontre des experts de l'équipe France pour échanger sur les paiements au service des entreprises. Nous allons partager avec vous des clés, des conseils, des bonnes pratiques destinées aussi bien aux acheteurs, trail managers ou aux financiers. Notre objectif, vous aider à optimiser les processus de paiement au sein de votre organisation. Nous avons traité dans le premier épisode les dépenses du quotidien, souvent de petits montants dites sauvages. Nous avons passé en vue les possibilités pour les maîtriser, mais cela a mis en évidence un sujet d'importance qui sera le cœur de notre deuxième podcast, c'est la donnée des qualités et donc la transparence pour consolider ces dépenses au sein des process de l'organisation. Pour en parler aujourd'hui, j'ai à nouveau la chance et le plaisir d'accueillir Julie Troussicot, directrice générale d'R+. Julie, un grand merci.
Bonjour Thibaut, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ainsi que nos auditeurs pour cette série qui, nous le souhaitons, vous éclairera sur les enjeux des paiements B2B. Vaste sujet.
Alors Julie, je ne vais pas revenir sur le contenu du premier épisode, il est disponible en replay pour tous nos auditeurs. Néanmoins, on a arrêté nos conversations sur la notion clé qui est la transparence, je dirais même une valeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le sujet de la transparence prend autant de place dans les débats lorsqu'on évoque les moyens de paiement? Est-ce qu'il y aurait un problème?
Alors, pourquoi la transparence prend-elle autant de place, effectivement, dans notre industrie? Alors, tout simplement parce que les volumes des dépenses B2B en fin d'année fiscale peuvent être colossaux. Et que ces dépenses, grandes ou petites, intègrent le bilan de l'entreprise. Donc, on voit bien qu'on est dans, évidemment, un sujet majeur. L'objectif d'obtenir la plus grande transparence et le plus d'informations possibles pour chacun des paiements et des transactions est évidemment majeur parce que chaque ligne de paiement doit correspondre à une dépense et être affectée à la bonne business unit de l'entreprise. Donc on est vraiment dans le cœur du bilan d'une entreprise et de son bilan financier. Alors, la recherche constante de transparence, c'est en plus un cercle vertueux pour l'entreprise. Clairement, en chassant les dépenses indirectes, par exemple, hein, l'entreprise va pouvoir dresser d'abord une liste de ses fournisseurs pour pouvoir la gérer, voire la réduire. Donc la transparence va également permettre de connaître plein d'informations comme le lieu des dépenses, la catégorie des produits ou de services, le type de fournisseur, le montant des taxes, etc. Et donc, clairement, nourrir un reporting très détaillé. Le cercle vertueux de la transparence, c'est aussi la chasse à la fraude. Alors, on le savons, ça existe, oui. Malheureusement. Il y a de nombreuses études hein, sur le sujet et selon les entreprises concernées, l'impact ne peut ne pas être neutre en ce qui concerne la fraude. Donc, il est donc, et en plus, clairement de la responsabilité de l'entreprise que de munir ses collaborateurs d'outils de paiement qui soient non seulement efficaces, bien sûr, mais qui mettent en place avec des politiques claires et validées pour essayer de limiter considérablement la fraude.
Merci. Alors, en résumé, la transparence, on voit que c'est le moteur de tous les projets qui visent à manager les paiements et les dépenses de l'entreprise, même si c'est parfois difficile à mener en interne, on vient de le voir. Mais alors, concrètement, quels sont les défis auxquels sont confrontées les entreprises?
Alors, le défi majeur, hein, c'est de bénéficier d'une information de qualité. Oui. Plus elles sont nombreuses et détaillées, ces informations, et évidemment mieux le processus de traitement et d'analyse est efficace. Pour les petites dépenses dont on a déjà parlé, oui. C'est pas toujours le cas d'avoir ces informations-là et ces informations-là de manière détaillée. Et du coup, c'est là que l'exercice de consolidation devient compliqué.
Alors, revenons sur notre fil rouge de cette série de podcasts, que sont les cartes virtuelles qu'on va retrouver dans les 4 épisodes. Clairement, comment on peut concilier cartes virtuelles et transparence? Quel est le niveau de transparence de ces cartes, même si vous l'avez déjà un peu évoqué dans le premier épisode, mais rentrez dans le détail, s'il vous plaît. Et quelles sont les options aussi pour les utilisateurs?
Alors, si l'entreprise distribue des cartes virtuelles à ses collaborateurs, cela veut dire qu'elle a mis en place une politique d'utilisation en parallèle, parce que clairement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc concrètement, l'administrateur va pouvoir imposer des restrictions ou des limitations sur les montants, par exemple, ou le type de fournisseur ou de marchand éligible, ou encore sur la période de validité de la carte. En fixant donc des règles claires, l'entreprise ne restreint pas son collaborateur. Au contraire, elle lui donne la liberté de dépenser plus facilement et selon les besoins de sa mission. Donc la transparence s'obtient avec la confiance du collaborateur. On voit que tout est là, évidemment, avec on peut parler de tous les outils du monde, on revient à l'humain. Oui. Et plus il a confiance, ce collaborateur, et plus il adhère à la solution mise en place. Et donc plus il va nourrir le système avec les informations de qualité. Donc c'est du coup, un second point très important hein, sur la notion, c'est que les cartes virtuelles permettent de faire remonter des informations supplémentaires, intéressantes, qu'on ne trouve pas avec les autres cartes. Je veux parler notamment d'un numéro de bon de commande ou d'un numéro de code projet.
Oui.
Information qu'on ne retrouve évidemment pas quand on paye avec sa carte personnelle plastique. Donc, toutes ces données sont ensuite envoyées dans l'outil de l'entreprise qui va permettre le rapprochement entre le reçu et le paiement, ce qui, de mon point de vue, évidemment, est une réussite majeure dans le processus de traitement des dépenses. Voilà, donc, dans le cas des achats ponctuels ou des dépenses ad hoc, lorsqu'aucune solution n'est mise en place, l'entreprise doit se contenter du reçu ou de la facture qui est transmise par le collaborateur, ce qui est malheureusement encore souvent le cas. Donc on voit bien que la carte virtuelle, c'est évidemment un excellent partenaire de la transparence.
Tout à fait, tout à fait. Et l'adhésion de collaborateurs est aussi clé dans ce type de projet de réconciliation des données. Alors, qui dit transparence dit qualité des données remontées. C'est le corollaire qui est indispensable de la réconciliation finale de l'ensemble de ces datas. Mais qu'en est-il de la carte virtuelle ?
Alors, je pense que j'ai déjà répondu effectivement probablement une partie à cette question dans ma réponse précédente. En fait, les utilisateurs, lorsqu'ils génèrent une nouvelle carte virtuelle, vont pouvoir ajouter des informations supplémentaires. Donc, on en revient vraiment à l'utilisateur de la carte, au collaborateur de l'entreprise, au moment donc, de l'édition du reporting des dépenses. En réalité, l'utilisateur est guidé par le choix de l'entreprise. Il y a une politique entreprise, il y a un cadre et de son administrateur qui va pouvoir prédéfinir des champs de données bien particuliers, comme le centre de coût. Généralement, c'est évidemment un standard, mais on va demander aux collaborateurs de remplir au minimum ce type d'information ou le numéro de projet ou le numéro de commande. Donc, en fin de compte, la qualité de la donnée dépend du paramétrage de la carte par l'utilisateur,
d'accord,
mais aussi du coup des choix offerts par l'administrateur. Parce qu'il peut, en amont, évidemment, largement orienter aussi et guider l'utilisateur. Et puis, des informations qui sont transmises par le marchand. Donc, évidemment, on a bien conscience que cela, ça fait quand même beaucoup de paramètres. Mais la carte virtuelle est capable de délivrer une information de qualité, même si parfois, il y a des erreurs de saisie pendant le processus. Il est possible, via certains développements supplémentaires, en l'occurrence de la carte virtuelle d'AirPlus, de corriger automatiquement ces erreurs, notamment à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais dans le fonctionnement normal des cartes virtuelles, la qualité de la donnée dépend encore une fois de la confiance et de l'engagement du collaborateur.
Naturellement. Alors, avant de clore ce deuxième podcast, si vous aviez un conseil ou deux à donner à nos auditeurs qui souhaitent s'équiper d'une carte virtuelle, quel serait-il, s'il vous plaît ?
Alors, des conseils évidemment un peu généralistes et de bon sens, mais quelle que soit la période concernée ou ce qui va motiver une entreprise donc à s'équiper d'une solution de carte virtuelle, je recommande vivement d'effectuer un pilote. Une phase de pilote
avec un une évidence,
avant, voilà,
mais c'est pas
avant un déploiement massif. Clairement, ça paraît une évidence, c'est pas toujours le cas et on a suffisamment eu d'exemples où on voit que ce n'était pas forcément le cas. Second conseil, il ne suffit pas d'équiper ses collaborateurs de cartes virtuelles pour régler tous les problèmes. Vous l'aurez compris dans cet épisode, il y a un autre instrument très important à mettre en place qui est la politique d'utilisation de ces cartes.
Évidemment.
Donc il faut savoir fixer un cadre aux collaborateurs pour renforcer leur autonomie parce que c'est bien là l'objectif, c'est qu'ils soient le plus libres finalement avec ce cadre prédéfini et favoriser une meilleure maîtrise des dépenses. Donc on est encore une fois dans ce cercle vertueux. Et voilà, en résumé, donc, un tel chantier, ça s'anticipe. Évidemment, ça se construit, ça se teste, ça se déploie. Ça s'entretient et ça se nourrit. On est dans un mode projet.
Merci Julie, merci pour l'ensemble de ces conseils. Je suis certain que nos auditeurs les apprécient. C'est notre second podcast et c'était surtout encore une fois un plaisir d'échanger avec vous Julie.
Thibaut, ce fut un plaisir également pour moi et vous revenez quand vous voulez chez nous, chez AirPlus.
Je n'y manquerai pas. À tous nos auditeurs, une nouvelle fois merci pour votre écoute attentive lors de ce podcast et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre 3e épisode consacré à la sécurité. À très vite sur les ondes d'AirPlus.